Vous écoutez France Culture.
Nathalie Mons, réaction, commentaire ?
Oui, bah, ça reboucle sur ce qu'on se disait en tout début d'émission, c'est-à-dire que le système fonctionne bien pour une élite, crée bien une élite scolaire, et cette élite scolaire, en France, évidemment, est très proche de l'élite aussi sociale. Hein, puisque c'est une école qui est très fortement reproductrice. Donc j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que si le système dysfonctionnait pour l'ensemble des élèves, il y a longtemps qu'il aurait bougé. Mais de façon certaine, il permet finalement à certaines classes sociales de continuer à acquérir une position dominante à travers l'école, puisque comme je disais, l'école est primordiale en France et beaucoup plus qu'à l'étranger.
Alors le salaire du débat, Caroline Forest.
Oui, il y a quand même un paradoxe dans ce que vous dites et ce que vient de dire Brice Couturier, c'est que si on est mal classé, notamment par PISA et par des classements internationaux, du fait que on n'arrive pas à donner sa chance à tous, mais que néanmoins on assure un bon niveau pour ceux qui peuvent suivre, on ne peut pas à la fois dire ça et dire en même temps le niveau ne baisse que pour certains parce qu'ils n'arrivent pas à suivre. Donc ça veut dire que quelle est la solution? Est-ce qu'il faut baisser encore plus le niveau général pour que l'ensemble de la moyenne des élèves arrive à suivre, ce qui serait contradictoire avec les demandes de ceux qui critiquent justement le classement de la France par rapport à PISA? Ou est-ce qu'au contraire, c'est ce que vous disiez un peu ce matin, plus tôt, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur le primaire pour que le primaire soit le lieu de l'égalité des chances, remettre à niveau des élèves qui ont des bagages familiaux très différents et des acquis culturels très différents, mais ensuite qu'on continue à être un système qui tire vers le haut ceux qui peuvent suivre?
Nathalie Mons.
C'est-à-dire que longtemps, en fait, on s'est assis sur une représentation sociale qui est fausse de l'école. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé, et je pense qu'on le pense encore aujourd'hui, et une part des parents le pensent encore aujourd'hui, et même certainement des enseignants, c'est-à-dire qu'on fabrique des élites si on s'intéresse seulement à une partie des élèves et si on laisse de côté les élèves les plus en difficulté. Voilà. C'est ça finalement qui intellectuellement a irrigué, c'est cette pensée-là qui a irrigué finalement tout le fonctionnement de l'école depuis plusieurs décennies.
C'est l'impensée de l'école depuis...
C'est l'implicite. Or aujourd'hui, justement, grâce aux comparaisons internationales, on se rend compte que ce mode de fonctionnement ne conduit plus à une école qui est positive. C'est-à-dire qu'au contraire, c'est parce qu'on donne sa chance à l'ensemble des élèves, en particulier, comme vous venez de le dire, en misant dès le début sur un primaire qui développe de la prévention contre l'échec scolaire. C'est finalement en donnant sa chance à l'ensemble, à un vivier très très large d'élèves, qu'on va fabriquer des élites. Mais ça, c'est contre-intuitif en France. C'est un paradoxe qui a du mal aujourd'hui à irriguer la pensée des parents, des enseignants et parfois même de certains politiques.
Brice.
C'est-à-dire qu'il y a une espèce de retard français. Il faut bien comprendre que l'économie des Trente Glorieuses était basée sur une société pyramidale et hiérarchisée, fortement encadrée, où il y avait des gens qui décidaient et d'autres qui obéissaient. Le 21e siècle, l'économie du 21e siècle est basée sur ce qu'on appelle l'économie de la connaissance. Et ça implique donc que tout le monde, que le plus grand nombre possible accède à des compétences très générales. Nous avons fait le choix inverse, mais nous n'osons pas le dire, nous n'osons pas remettre en cause une école qui a été basée pour une élite sociale et pour sa reproduction. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles il y a un tel retard français sur le plan économique.
Est-ce que je peux prolonger votre question, Brice Calamnemont, pour la poser très simplement, comme le fait d'ailleurs Dominique Seux dans son éditorial Les Échos aujourd'hui, Qui en est responsable de cette question-là? Est-ce qu'il faut pointer du doigt l'État? Il y a eu un rapport de la sénatrice Brigitte Gonthier-Borin qui, notamment par rapport à la question des enseignants, a dit au fond que l'État avait brouillé le sens de l'école à travers la multiplication d'expérimentations et de dispositifs. Dominique Seux semble de vouloir dire aussi qu'au fond, il y a un centralisme tel dans l'éducation nationale que par rapport à d'autres pays aussi, au fond, l'État, à force de bonne volonté sans doute affichée, brouille sans cesse les cartes sur plusieurs domaines. Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre, en tout cas montrer du doigt? Je ne sais pas s'il faut le mettre en cause, mais est-ce que l'État, dans sa mission, pêche par par non-réformisme ou par une espèce de continuité un peu angélique qui nous trompe.
Alors, je pense que c'est vraiment une responsabilité qui est collective. C'est-à-dire que c'est une vision sociétale globale qui englobe à la fois les parents, les enseignants, les responsables politiques. Et il est clair qu'on reste sur un système qui est tout à fait conservateur, alors qu'on attache finalement des valeurs de gauche à l'école. C'est une école qui, de fait, est restée tout à fait conservatrice.
Oui, quoi qu'il arrive,
et on n'a pas réussi. Je crois que lorsqu'on regarde vraiment, lorsqu'on fait des comparaisons internationales de politique éducative, on se rend compte qu'à partir des années 70-80, dans d'autres pays, on commence à changer de vision. C'est-à-dire que les années 70-80, dans d'autres pays, c'est le moment où, par exemple, on remet en cause les processus de notation. C'est-à-dire qu'on enlève l'école et les notes dans la plupart des écoles primaires, alors qu'en France, on en est resté là. Dans les années 80, dans d'autres pays, comme par exemple les pays scandinaves, on commence à se dire que bon, c'est bien de fonctionner en termes de classe, mais également de suivre à travers un enseignement individualisé chacun des élèves pour prévenir l'échec scolaire. Or nous, on va rester par exemple sur le collège unique, où finalement on dit que tout le monde doit réussir, mais on ne donne aucunement leur chance aux élèves. Donc on n'a pas réussi à partir des années 70-80, finalement, à moderniser cette école parce qu'on en est resté sur une vision extrêmement conservatrice.
Même si le collège unique donnait le sentiment qu'on allait justement quand même réformer quelque chose, que l'école devenait une école réellement pour tous.
On ne s'est pas soucié de réformer le système parce que de fait, il fonctionnait. Il fonctionne même bien encore aujourd'hui. On parle de cette élite à 15 ans à travers PISA, mais on la retrouve dans la filière S, on la retrouve dans l'école, dans les grandes écoles. Ces élèves, après, vous avez vu les derniers chiffres, sont employés de plus en plus à l'étranger. Donc ils se vendent bien, on forme bien nos élites.
Caroline Forest.
Non, mais c'est ça qui est un peu révélé quand on va dans le détail de l'étude PISA au lieu d'en rester à la surface, c'est qu'en fait, le niveau ne baisse pas. Au contraire, c'est parce que le niveau reste très exigeant et qu'il y a de plus en plus d'élèves qui viennent avec des bagages, encore une fois, culturels et éducatifs très différents, qui n'arrivent plus à monter à bord de ce bateau qui continue à aller trop vite. Donc la question n'est pas de dire d'un côté, et le niveau baisse et en plus on est mal classé. La question est plutôt de dire comment on fait pour garder le plus possible d'élèves à bord de ce bateau qui peut aller visiblement très vite et très loin, et on en est plutôt fiers. Et pour ça, il y a quand même un paradoxe, c'est qu'effectivement, dans les années précédentes, on a enlevé les moyens au niveau du primaire, on a enlevé les RASED qui permettaient aux élèves les plus en difficulté qui sautaient du bateau parce qu'ils cumulaient justement ces handicaps. Donc aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qui est fait? On remet des moyens sur le primaire, on a remis en partie ces RASED, mais dans ce que vous dites, j'entends qu'on a toujours des difficultés à personnaliser et à donner des secondes chances quand on doit changer de filière ou avoir une réorientation en fait.
Nathalie Mons.
Alors, je crois que la réforme, en fait, et ça va être la gageure finalement de ce quinquennat. Alors, bon, là-bas, je dirais, c'est évidemment. Voilà, c'est de remettre les moyens qui avaient été enlevés, puisque bon, cette machine ne pouvait plus fonctionner en l'état. On en était dans des cas extrêmes où il n'y avait plus de profs remplaçants dans certaines académies. Donc, il faut remettre certains moyens. Mais il est clair que ça ne suffit pas. Ce ne sont pas seulement les moyens humains qui vont permettre au système de changer. Donc, il faut bien changer et s'engager dans une réforme. Alors, l'insistance sur le primaire, ça me semble fondamental. C'est-à-dire qu'on remet des moyens humains là où vous savez que, par exemple, lorsqu'on regarde le budget unitaire dépensé pour les élèves du primaire, il était en France largement inférieur à la moyenne de l'OCDE. Donc, il y avait bien un problème d'allocation de ressources qui, là encore, se faisait au détriment du primaire et en faveur du lycée. Justement, la branche la plus élitiste du système scolaire. Donc, il y avait une inégalité dans la distribution budgétaire. Avec les nouveaux postes, tout ça est en train de se rétablir. Mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que, finalement, si on en reste, même avec davantage d'enseignants, à une même pédagogie qui ne permet pas d'aller voir quelles sont les difficultés de chacun des élèves et de les traiter, le système ne pourra pas fonctionner. C'est pour ça que dans le cadre de la concertation, nous avions l'été dernier insisté sur le fait que la révolution doit être pédagogique. Et pour engager, c'est ça vraiment aussi qui fait la différence entre la France et d'autres pays qui réfléchissent mieux, pour engager les enseignants, il faut évidemment une formation initiale qui soit de qualité, mais pas seulement. On va mettre beaucoup de postes sur la formation initiale, mais si vous ne renouvelez pas le stock des enseignants qui sont déjà en place en termes de formation, donc c'est ce qu'on appelle la formation continue, vous passez à côté d'une partie de votre réforme. Donc il faut de la formation initiale et de la formation continue, de façon à équiper l'ensemble des enseignants des méthodes pédagogiques et à les aider à pouvoir suivre chacun des élèves. Il y a aussi le dispositif plus de maîtres que de classes qui va permettre finalement à plusieurs enseignants de gérer une même classe de façon à découper, par exemple, ces classes en petits groupes et à suivre un groupe et à mieux identifier donc les difficultés, à mieux faire de la remédiation et de la prévention. Je crois que ce qui est important, c'est le terme de prévention.
Les éléments de cette réforme-là, ils sont présents sur quel pourcentage aujourd'hui dans cette rentrée scolaire 2013-2014, Nathalie Mons?
On va avoir finalement un étalement des postes et retrouver peu à peu avec les 60 000 postes.
Alors il y en a 8 200 qui démarrent cette année sur les 60 000 promis.
On en a 8 000 en fait. On a quelques 8 000 postes déjà sur l'enseignement primaire et secondaire. Alors, c'est pas négligeable. Une aussi des difficultés de la réforme en éducation, c'est que quand on regarde 8 000 postes, on se dit, c'est 8 000 postes, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais 8 000 postes, si on le compare à d'autres ministères, 8 000 postes, c'est la moitié des effectifs du ministère des Affaires étrangères. C'est-à-dire que cette année, le ministère de l'Éducation recrute la moitié des effectifs du ministère des Affaires étrangères. Alors, c'est un petit ministère, mais sur les 5 ans, 60 000 postes, ça représente la moitié des effectifs de la police. Je ne sais pas si vous voyez, en termes de gageurs et de défis, ce que ça signifie. Donc voilà, ça c'est des moyens en plus, mais je le dis, ça ne suffit pas. La réforme ne doit pas s'arrêter à ces moyens supplémentaires et c'est pour ça qu'il y a d'autres actions qui sont mises en place. Alors, mais c'est sur le terrain que ça va se jouer.
Dans les défis des réformes éventuelles, Antoine Beauchamp des Matins de France Culture a interrogé Agnès Verdier-Bolligné, directrice de l'IFRAP, la Fondation pour la Recherche sur les Administrations et les Politiques Publiques. Et notamment, selon les rapports de ce think tank qui est en cours d'élaboration, l'éducation nationale mériterait, comme ailleurs, de connaître davantage sa décentralisation.
L'État n'a jamais vraiment voulu lâcher l'éducation, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, on décentralise sans décentraliser. Donc on a donné au niveau local des responsabilités qui sont un peu les responsabilités subalternes. Il n'y a pas le paiement des professeurs, il n'y a pas vraiment de le recrutement, il n'y a pas toutes ces questions-là qui sont restées très centralisées. Alors que là où on a vraiment décentralisé, en Suède, en Allemagne, au Royaume-Uni, on fait confiance au niveau local. Et chacun aussi a intérêt, si vous voulez, plus c'est géré au niveau proche des parents d'élèves, des élèves, plus on a intérêt à avoir l'éducation de la plus grande qualité possible. On a une administration de l'éducation nationale qui nous coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que dans les autres pays. Si vous prenez les dépenses de premier et second degré en France, en Allemagne et au Royaume-Uni, vous vous rendez compte qu'on dépense 30 milliards de plus par an pour à peu près le même nombre d'élèves. Et là, je parle évidemment hors maternelle et hors supérieure. Donc 55 milliards en Allemagne, 54 au Royaume-Uni et 85 en France. Donc là, il y a une question à se poser. Comment se fait-il qu'on dépense 30 milliards d'euros de plus tous les ans?
Agnès Verdier-Molinié de l'IFRAP au micro d'Antoine Beauchamp. Nathalie Mons.
Oui, je suis plutôt réservée par rapport à ce type d'analyse. Je crois qu'on est vraiment dans la doxa, c'est-à-dire que renvoyer toujours les problèmes vers le local en disant puisqu'on n'arrive pas à les résoudre au niveau national, essayons de les résoudre au niveau local. Malheureusement, la recherche, il n'y a pas de consensus, si vous voulez, scientifique sur les opérations
décentralisation. En Suède, quand les parents d'élèves sont... Alors, en Suède, on a un système à trois piliers. Quand les parents d'élèves sont mécontents du système public, ils peuvent créer une école autonome qui est dotée par l'État et qui est géré par les parents d'élèves avec recrutement par la... De toute façon, en Suède, toutes les écoles sont gérées par la municipalité et les professeurs sont recrutés, estimés et notés par les municipalités, appuyés par les parents d'élèves.
C'est la chienlit,
ça. Au contraire, c'est la décentralisation maximale et ça permet d'adapter évidemment les programmes en fonction du public local. Ça permet de créer aussi une concurrence extrêmement bénéfique au public parce qu'il est obligé de relever évidemment le défi de ces écoles autonomes, plus ou moins autogérées par les parents.
Nathalie Mons et Karine Fouret. Nathalie Mons.
Oui, alors vous avez raison, c'est le cas, ça fonctionne, c'est-à-dire que oui, ça a été mis en place en Suède. Le problème, c'est que quand on regarde après les résultats du système éducatif suédois, sur une dizaine d'années, ils se sont fortement dégradés, c'est-à-dire que les résultats moyens ont fortement baissé et surtout les inégalités sociales ont fortement progressé dans un pays dans lequel la visée d'égalité était vraiment une des bases du fonctionnement de la société suédoise. Donc je crois que oui, ça a été mis en place et c'est peut-être aujourd'hui malheureusement un exemple dont il faut tirer certaines leçons. Alors, ce que j'entendais dans le reportage là est intéressant parce qu'il disait bon, c'est vrai qu'en France, en fait, on a assez peu décentralisé sur ce qui est important. Même si, par exemple, regardez sur les rythmes, alors, c'est bien une opération de décentralisation.
Voilà. Mais on voit bien avec quelles difficultés elle se met en place, puisqu'elle ne sera mise en place que sur 22% à peu près du territoire.
Non, mais enfin, en plus, excusez-moi, mais vouloir appliquer la décentralisation à la question de l'éducation nationale, à moins d'en faire une question idéologique ou de faire de l'école à la carte, avec ce que ça peut présupposer de baisse de niveau général, justement, on ne peut pas à la fois dire qu'on veut augmenter le niveau et qu'on veut décentraliser. J'entends l'argument qu'on peut faire des économies sur l'éducation nationale en décentralisant, certainement, mais c'est sûrement pas en s'adaptant à la demande locale des parents et en faisant des économies qu'on va augmenter le niveau général et les objectifs généraux d'un pays. Et l'exemple de la Suède, en plus...
Prenons l'exemple allemand, où les résultats PISA étaient très mauvais en l'an 2000. Les Allemands, du coup, ont décentralisé leur système encore plus qu'ils ne l'étaient. Maintenant, c'est vraiment au niveau des Länder que tout se joue. Or, le niveau a remonté. En France, on n'a pas tenu compte des résultats PISA. Ils continuent à se dégrader.
Nathalie Mons.
Dans le cas allemand, c'est un pays qui est historiquement fédéral. Donc, il n'y a pas eu de décentralisation. Donc, les Länder ont toujours été responsables de l'éducation. Et ils ont mené d'autres politiques. Et au contraire, de centralisation en termes de développement de programmes davantage communs qui peuvent aussi peut-être expliquer la remontée des résultats en Allemagne. Je crois que ce qui est important lorsqu'on regarde la décentralisation française, c'est se rendre compte qu'on a fait des tentatives et on a décentralisé certaines compétences depuis les années 80. Mais caractéristique vraiment franco-française, on n'a pas mis en place de système d'observation et de régulation nationale. C'est-à-dire qu'on transfère des compétences et on ne regarde pas ce qu'en font les acteurs dans les autres pays. Or, on citait le cas suédois, mais on peut aussi citer le cas finlandais. Il y a beaucoup de pays, c'est vrai, qui sont allés plus loin dans la décentralisation. Partout ailleurs, on met des systèmes d'évaluation en place, c'est-à-dire on dit aux collectivités locales, on vous transfère certaines compétences, mais ensuite on leur demande de rendre des comptes. Qu'en avez-vous fait? Quels sont les programmes que vous avez faits? Comment vous les évaluez en termes de résultats? Et ça, finalement, c'est ce qui manque en France. On a un tel tabou de cette République une et indivisible qu'on ne sait finalement pas gérer les formes de décentralisation. Donc pudiquement, on transfère des compétences et ensuite on ne regarde surtout pas ce qui se passe.
Caroline Forest.
Donc on fait des économies sans gérer le niveau d'exigence en termes hexagonal. Mais je reviens sur la question de la formation des enseignants, puisque vous nous dites justement que c'est un des chantiers où là aussi, pour aller vers la personnalisation, pour aller vers le renouvellement des pédagogies, il faut investir.
Il faut citer que ce seront les ESPE, écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Alors là aussi, ces formations avaient été enlevées. D'ailleurs, quand on fait le bilan, quand même, se dire qu'on enlève à la fois la formation des enseignants, qu'on avait enlevé les moyens, qu'on avait enlevé les RASED, qu'on avait quand même sacrément sabordé la planche de l'éducation nationale. Donc tout ça a été en partie remis. Mais est-ce qu'à votre avis, cette formation est suffisante aujourd'hui?
Nathalie Mons.
Ça va se développer sur plusieurs années. Je crois que ça, c'est
combien,
vraiment quelque chose...
Est-ce qu'on sait combien? Est-ce que c'est le temps de politique du quinquennat ou est-ce qu'il faut que ça soit plus...
Je crois que ça se développe, ça, une politique éducative, vous savez, les pays qui réussissent, ça se développe au-delà d'un mandat. Lorsqu'on regarde les politiques qui réussissent, les pays qui réussissent, je pense à la Finlande, on peut même citer le Royaume-Uni où on a eu des mouvements satyriens très importants, puis après Blair derrière, les États-Unis. Ce qui caractérise en fait ces pays, c'est qu'au moins sur l'enseignement obligatoire, on a un consensus politique. Ce qui a aussi très fortement marqué...
Quelles que soient les échéances ou les alternances politiques.
Voilà, c'est-à-dire que ces politiques, si on regarde par exemple la politique de la formation en Finlande, qui est aujourd'hui un modèle finalement de politique de formation, parce que c'est à la fois la transmission de connaissances dans certaines disciplines, mais aussi d'une pédagogie forte qui est donnée à l'ensemble des futurs enseignants. Ce système, il se met en place sur quasiment 2 décennies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le système, on se dit, oui, évidemment, c'est impressionnant, c'est vraiment ce qu'on voudrait faire. Ça se met en place à partir des années 80. Et il y a donc eu un consensus hein, qui a permis finalement de ne pas détruire l'édifice à chaque fois qu'il y avait une forme d'alternance. Donc ça, c'est le point crucial, c'est-à-dire que les politiques éducatives se développent sur le long terme. Alors, pourquoi se développent sur le long terme ? Parce que c'est un immense, dans tous les pays de l'OCDE, les caractéristiques hein, de l'éducation, c'est que ce sont des paquebots qui sont énormes. Hein, je le citais, je vous citais les 8000 postes qui font la moitié des effectifs du ministère des Affaires étrangères. Avec ces 800 000 enseignants, on a la moitié des fonctionnaires de l'État.
Et 12 millions d'élèves. Quoi.
Enfin, et 12 millions d'élèves. Donc on a un immense paquebot voilà, qui ne peut se gérer. Vous savez, quand vous étiez petit, vous alliez bien voir les paquebots qui sortaient du port. Vous voyez les manœuvres. Hein, on va dans un sens, on revient en arrière. Voilà. Donc en fait, finalement, quand on est ministre de l'Éducation, c'est ça. Il faut gérer, être en capacité à gérer la sortie d'un paquebot d'un port. Donc ça se fait sur un temps qui est extrêmement long. Et ça demande derrière un consensus politique d'une façon à ne pas changer d'orientation à chaque fois qu'il y a une alternance.
Brice Couturier.
Je voudrais citer Monique Dagneau, qui est une excellente sociologue, dans un article qu'elle a fait pour Telos il y a quelques temps, où elle écrivait « Dans les classements internationaux, le rang favorable dans le peloton de tête qu'occupaient les meilleurs élèves français recule. Au niveau médian aussi, la place de l'école française cesse du terrain et les scores du décile des élèves les moins bons s'écartent plus fortement de la médiane nationale que dans tous les autres pays. » Donc il faut bien comprendre que c'est toutes les catégories d'élèves qui décrochent en ce moment en France, pas seulement les décrochent les mauvais élèves, ceux qui sortent de l'école sans savoir lire et écrire, mais tout le monde. Donc il faut que l'élite au pouvoir comprenne, elle aussi, que son intérêt, ce n'est pas le maintien en l'état d'une école qui dégrade le niveau général de ses élèves, mais qu'elle a également intérêt, qu'il faut qu'elle prenne conscience aussi que ses propres enfants décrochent par rapport aux moyennes au CDE et que le système ne peut pas continuer comme ça, que le paquebot doit effectivement changer de direction.
C'était le message personnel de Brice Couturier à Vincent Payan. Nathalie Mons.
Oui, moi je pense que quand même, il y a aujourd'hui une prise de conscience qui est très importante sur le sujet, avec tous les obstacles.
On va arriver à la conclusion. Est-ce qu'il faut être aussi pessimiste que Brice Couturier, ou est-ce qu'au fond, comme certains le disent, après une année compliquée pour le ministre de l'Éducation nationale avec les syndicats enseignants, cette rentrée est une rentrée plutôt bonne ?
Moi, je crois qu'il faut dédramatiser la situation, c'est-à-dire il faut aussi cesser avec ce discours catastrophiste. Il y a au moins 5 ans, il serait bien qu'on en ait même 10 en se disant que, non pas que ce soit le PS, mais qu'il y a un consensus, même s'il y a une alternance, qu'importe, mais qu'il y ait un consensus, qu'on se dise que finalement, on se donne du temps. Je crois qu'il faut finalement que l'ensemble des citoyens français grandissent. Non mais... En France, finalement, il y a une forme d'immaturité politique. Alors évidemment, le slogan « le changement, c'est maintenant », ça n'a pas aidé. Mais je crois que dans ce pays, en termes d'action publique, il faut que tout le monde grandisse, à la fois les citoyens, les politiques, les médias, et qu'on se dise que l'action publique, ça se développe dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut progresser petit à petit. Il faut peut-être faire des expérimentations. Il faut arrêter de penser que l'élite peut dessiner une réforme qui soit idéale et penser qu'elle va s'appliquer comme ça sur le terrain. Toutes les recherches depuis 50 ans montrent que les réformes ne s'appliquent pas sur le terrain exactement comme elles étaient prévues initialement. Donc il faut que globalement, collectivement, on grandisse, qu'on prenne de la distance par rapport à ce qui se fait en action publique, qu'on se dise qu'il faut du temps, qu'il faut des expérimentations, qu'il faut essayer, qu'il faut échouer, qu'il faut recommencer, qu'il faut évaluer et que peu à peu, on dessine un chemin et qu'on avance progressivement. Voilà, il faut dédramatiser le discours autour de l'éducation.
C'est le message optimiste de ces matins du 3 septembre sur la rentrée scolaire. Nathalie Mons, merci à vous.
Merci.